Radio Django. Vivre à Lausanne.
Dans la rubrique Vivre à Lausanne, on parle ce soir d'un sujet sensible, on l'a dit, le suicide. Le 2 et 3 mai dernier, le groupe d'accueil d'accent psychiatrique, le GRAP, a consacré son congrès annuel à cette thématique. Je donne la bienvenue à Laurence.
Bonsoir.
Alors, tu t'es rendue à ce congrès intitulé « Le suicide, oser en parler ».
Oui, Claudia, j'ai rencontré plusieurs spécialistes qui m'ont parlé de cette thématique. Mais avant d'entendre leurs témoignages, regardons juste les chiffres. Toutes les 40 secondes, une personne se suicide dans le monde et toutes les 3 secondes, une autre fait une tentative. Ces chiffres nous proviennent de l'Office mondial de la santé et toujours selon l'OMS, le suicide est un phénomène qui touche toutes les régions du monde. Mais contrairement à certaines croyances, le suicide n'est pas une problématique de pays riches. 3/4 des suicides ont lieu dans des pays à faible revenu. D'ailleurs, plusieurs études montrent également que moins ce sujet est tabou, plus son taux recule.
Et à ces colloques du GRAP, tu as interviewé 4 personnes qui ont abordé différentes facettes de cette thématique très délicate et aussi taboue.
Oui, effectivement, dans ce reportage, ils s'exprimeront sur des aspects philosophiques, psychologiques et aussi par rapport à des expériences personnelles. On va justement commencer par le témoignage de Carole Mock, qui est père praticienne en santé mentale au GRAP. Donc on entend par père praticienne une personne qui a vécu les mêmes difficultés que les gens qu'elle accompagne. Pour commencer, je lui demandais pourquoi il était si difficile de parler de son désir de mort.
Alors on va écouter le reportage.
Le désir de mort fait peur, déjà, donc c'est extrêmement difficile à communiquer. Et puis, pour ma part, c'était le désir de mort, non seulement n'était pas communicable, mais le désespoir tout court n'était pas communicable, dans la mesure où, à l'époque où j'ai moi-même fait une tentative, j'étais totalement isolée, totalement coupée des autres, coupée même de moi-même. Et je n'avais pas accès à mes émotions, je ne pouvais pas en parler, je n'avais pas accès à la parole finalement.
Est-ce que vous avez pu en parler après ?
Après coup, c'était un petit possible, mais malheureusement, le psychiatre qui me suivait n'avait pas de disponibilité pour me venir voir à domicile. Vu que j'étais gravement blessée suite à ma tentative de suicide, j'étais obligée de rester à la maison. Et j'ai pas pu lui parler, ni au téléphone, ni lui n'est venu me voir chez moi. Donc je suis restée dans le silence encore après ma tentative de suicide finalement.
En quoi le fait de parler permet de se sentir mieux ?
Alors parler pour moi c'est déjà simplement communiquer. Parler c'est être en lien, c'est être en relation avec l'autre ou les autres. Et je crois que ce qui est fondamental dans le rétablissement, c'est justement la relation, c'est la capacité. Enfin, j'ai une auteure que j'aime beaucoup, qui est une théologienne protestante qui s'appelle Lita Basset, avec qui je fais des cours. Et elle aime parler de guérison ou de rétablissement en disant que c'est la restauration de la capacité relationnelle. Et quand on est au bord du suicide, on a totalement perdu cette capacité relationnelle et par là même aussi cette capacité de parler. Parce que parler à l'autre, c'est entrer en relation avec l'autre. Communiquer, c'est parler. Communiquer, c'est être en relation. Et quand vous êtes au bord du suicide, vous ne pouvez plus être en relation. Vous pouvez des fois même plus parler, justement. Alors que parler peut sauver.
Comme vous l'avez dit, c'est un processus qui a été long, en fait, pour vous permettre à parler. Est-ce que vous avez eu un déclic ou comment... Qu'est-ce qui vous a amené à pouvoir parler ?
Ce qui m'a permis de parler, c'est surtout de rencontrer, je dirais, les bonnes personnes, de sortir d'une relation qui était toxique, avec qui justement, enfin la personne avec qui je me trouvais, pas mariée, mais en compagnonnage, c'était pas possible de le faire dans ce contexte, et de rencontrer d'autres personnes, de quitter déjà cette personne toxique, et de rencontrer d'autres personnes avec qui j'ai pu être moi-même, être authentique, être entendue, et vraiment prise en considération et aimée, simplement, pour ce que je suis.
Vous êtes en contact hein, quotidiennement avec des personnes qui sont dans des situations difficiles. Est-ce que ça peut arriver à tout le monde d'avoir des idées noires ?
Oui, j'en suis convaincue. Pour moi, c'est vraiment un problème existentiel. on pourrait parler de désir de mort, mais encore que je ne sais pas si on peut parler de désir quant à la mort, mais en tout cas l'envie d'en finir, l'envie de terminer la souffrance et de trouver une issue à quelque chose qui paraît totalement inextricable, je crois que ça peut toucher vraiment tout un chacun, avec ou sans maladie psychique. Le langage de prévention doit s'adresser à tout un chacun, parce que, comment dire, la perte d'un être cher ou même d'un ami ou d'un collègue par suicide, c'est quelque chose d'extrêmement choquant. Je l'ai vécu par deux fois, perdu deux collègues et amis en 2016 et en 2017. Et on se demande toujours ce qu'on aurait pu faire. Mais ce qu'on aurait pu faire, c'était peut-être justement parler du suicide. Que la perche soit tendue, la perche de ce mot suicide qu'il faut prononcer. Parce qu'on passe souvent d'idées noires, et les médecins eux-mêmes, quand ils vous demandent si vous avez envie de vous suicider, parce que moi j'aime bien dire le mot, c'est pas un gros mot, vous demandent est-ce que vous avez des idées noires. Mais les idées noires, c'est un euphémisme. Et je crois que ça vaut la peine de parler vraiment du mot suicide, parce que c'est un mot qui délivre la parole, justement.
Comme on vient de l'entendre, il est difficile pour de multiples raisons d'oser exprimer son désir de mort. Mais pourquoi est-ce un sujet si tabou ? Pour en parler, nous allons rencontrer une autre intervenante au 29e congrès du GRAP sur le thème « Le suicide, osons en parler ». Vous êtes philosophe et chargée de projet chez Pro Mente Sana et vous êtes intervenue au congrès du GRAP pour parler des questions éthiques que pose le suicide. Comment expliquez-vous que le suicide est un sujet si tabou ?
Mais évidemment, la première explication qu'on trouve est celle du poids de l'Église, du poids de la religion chrétienne notamment, pour justifier le fait que le suicide soit un interdit. Un interdit posé à la personne, un interdit posé à la société aussi. Il est nécessaire de maintenir en place la société. Il est nécessaire de maintenir en vie des personnes qui ont leur rôle à jouer dans la société. Là, je viens d'utiliser un argument qui en réalité n'est pas vraiment un argument chrétien, mais qui est un argument qui nous vient de l'Antiquité. Donc, quand on commence un peu à réfléchir au raisonnement qu'a eu la religion chrétienne et notamment ses plus grands penseurs, surtout au Moyen-Âge, on se rend compte que leurs propres raisonnements, leurs propres arguments, certains de ces arguments notamment, trouvent leurs racines bien avant la naissance de la religion chrétienne. Donc le tabou vis-à-vis du suicide, oui, c'est vrai, il a été créé par le poids de l'Église et de la religion, mais en réalité, il remonte à un peu plus loin, c'est-à-dire que déjà à l'époque grecque notamment, il y avait des penseurs qui s'étaient opposés au suicide pour plusieurs raisons. Après, si on pense à l'époque actuelle, on pourrait identifier d'autres origines au tabou qu'on a encore actuellement quand on parle, quand on pense même au suicide. Et ces tabous, on serait peut-être étonné de le savoir, mais ils nous viennent de la science, ils nous viennent de la psychiatrie, la psychologie, le monde médical d'un côté, ils nous viennent aussi de la sociologie de l'autre. Et pourquoi est-ce que ces deux sciences provoquent un tabou ? Parce qu'ils nous imposent une façon de penser au suicide. Ils nous disent, le monde médical, ben, le suicide est le résultat d'une maladie, la plupart du temps une maladie mentale. Et de l'autre côté, les sociologues, les personnes qui étudient la société actuellement, ils nous disent que le suicide est le résultat d'une société qui dysfonctionne. Alors ces formes de raisonnement, de justification au suicide nous empêchent en réalité de faire quoi ? De penser librement au suicide, de penser au suicide comme le résultat d'un libre choix.
Et est-ce qu'il y a des pays ou des régions où le suicide est moins tabou que dans d'autres ?
En préparant mon intervention de cet après-midi, je suis tombée sur quelques descriptions d'un suicide qui est accepté par certaines sociétés, par certains groupes ethniques, les Inuits notamment, quand une personne a atteint un âge vénérable et qu'elle n'est plus qu'un poids, entre guillemets, pour la société, ben, à ce moment-là, la personne, elle décide d'elle-même volontairement de quitter la société, la famille et de se donner la mort. Mais attention, le suicide, c'est pas seulement une question de tabou, c'est pas seulement une question de choix de société, si oui ou non on peut parler du suicide. Le suicide, c'est une question qui nous touche tous au niveau de notre lien avec nos proches, avec nous-mêmes. Donc, C'est pas seulement une question de tabou social, c'est une question de douleur, de souffrance. La souffrance de ceux qui survivent aux personnes qui se sont suicidées, la souffrance des personnes qui sont aux prises avec le dilemme. Donc, moi, je pense que c'est pas vraiment la question du tabou, ou peut-être qu'à la question du tabou, il faudrait répondre avec la question de la souffrance. Quoi faire avec cette souffrance existentielle qui n'est peut-être pas seulement, pas uniquement une souffrance mentale, justement. Défaisons-nous un petit moment du modèle médical. Essayons d'aborder le phénomène du suicide comme souffrance existentielle, comme possibilité, comme liberté humaine. Alors, quand on empoigne la question en tant que telle, on est obligé de penser aux personnes qu'on a perdues et on est obligé de se poser la question du sens de sa propre vie. Et ça, c'est vertigineux.
Et par rapport à cette question du sens de la vie, quel philosophe pourrait nous apporter en fait des clés par rapport à des envies de suicide?
Il y en a plusieurs. Celui que je préfère personnellement est un philosophe du XXe siècle, Albert Camus, qui est connu pour être un philosophe existentialiste, voire même un philosophe de l'absurde. Lui, il a fait l'exercice, il a même écrit un livre là-dessus. Il a essayé de comprendre, de chercher le sens de la vie. Le livre, il s'appelle « Le mythe de Sisyphe ». Donc, il a essayé de découvrir, en utilisant uniquement l'analyse philosophique, le sens de la vie. Il ne l'a pas trouvé. Mais en ne le trouvant pas, il a trouvé le sens de la vie, en ce sens que, étant donné que le sens de la vie ne se trouve pas par une simple analyse philosophique, et si on accepte le fait que Dieu n'existe pas, alors on est bien obligé de prendre acte du fait que la vie sur Terre est absurde, elle n'a pas de sens. Mais alors, si elle est absurde, c'est la tâche de l'être humain de faire de sa propre vie une œuvre, de l'accepter en tant que telle. Étant donné qu'il n'y a pas de sens, que c'est absurde d'être sur Terre, on est libre d'en faire une œuvre de cette vie qu'on a ici, sur Terre. Donc Camus, il nous invite à un devoir de révolte vis-à-vis cette absence de sens, assumant l'absence de sens jusqu'au bout et faisons-en un exercice de bonheur. Il termine son livre, Le mythe de Sisyphe, en disant « Il faut s'imaginer Sisyphe heureux ». Camus, il nous propose de faire un exercice d'imagination. Imaginons-nous un avenir qui nous plaise, imaginons-nous un avenir qui a du sens, une vie qui a du sens. C'est le seul sens qu'on peut avoir.
On l'a entendu, même dans les pays où le suicide est moins tabou, c'est toujours difficile d'en parler lorsqu'on est directement concerné. Pascal Ferrari et Yves Drogy, tous deux intervenants au congrès et infirmiers cadres dans le département de psychiatrie du CHUV, nous apportent quelques pistes concrètes. Bonjour.
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 Pascal Ferrari, vous êtes également maître d'enseignement à la Haute École de Santé La Source à Lausanne. Et vous, Yves Drogy, vous êtes également président du groupe Romont Prévention du Suicide. On entre directement dans le vif du sujet. Si on a des pensées suicidaires, quels réflexes peut-on activer?
Idéalement, c'est de pouvoir en parler. Mais nous savons malheureusement que ce n'est pas si simple que ça, puisque le suicide est un sujet extrêmement tabou et les personnes en crise suicidaire sont prises par d'énormes émotions, de la culpabilité, de la honte, de l'impuissance, etc., qui font que c'est compliqué pour ces personnes de pouvoir en parler clairement.
Et si justement la personne n'arrive pas à en parler et a l'impression que la situation ne changera jamais, comment l'aider?
Donc, ce qui est important, c'est de remettre le processus de la crise suicidaire dans le temps, c'est-à-dire de bien expliquer à la personne et de lui rappeler qu'au fond, elle n'a pas toujours été dans cet état-là, que du coup, elle peut aussi s'appuyer sur des ressources qu'elle avait auparavant. Mais c'est vrai qu'en crise, la personne est tellement envahie par toutes ses émotions qu'elle n'arrive plus rationnellement à utiliser les stratégies qu'elle utilisait habituellement. Et du coup, elle se sent enfermée dans aussi comme si le temps était suspendu. Et du coup, ce qui est important, c'est de remettre de la temporalité. Donc de pouvoir donner de l'espoir qu'il est possible de s'en sortir, mais que ça prendra aussi du temps, tout comme ça a mis du temps pour s'installer au fond.
En tant que proche d'une personne qui a des envies suicidaires, comment est-ce qu'on peut agir pour l'aider?
Alors sortir de l'isolement, également vécu par les proches, c'est-à-dire de pouvoir en parler ouvertement à son proche qui est en souffrance, en crise suicidaire, et puis ne pas hésiter à faire appel au réseau de soins, aux médecins traitants, aux infirmières scolaires ou à tout autre intervenant pour que la personne en crise suicidaire puisse bénéficier de soins.
Vous pensez qu'il y a une honte, en fait, à ressentir des idées noires ?
Alors, c'est différent pour chaque personne, mais c'est quelque chose qu'on entend régulièrement, en fait. Et du coup, en tant que professionnel, en tout cas, ça vaut la peine de pouvoir nommer ces choses-là, dire qu'on va vous poser des questions dans un sujet qui est difficile, c'est parfois difficile même d'en parler, de mettre des mots dessus, mais on doit poser les questions très concrètement. Et ça peut favoriser la mise en confiance pour la personne, finalement, pour qu'elle puisse se livrer.
C'est pourquoi, pour les professionnels et dans le cadre du groupement Prévention Suicide, nous avons mis en place une formation de 2 jours, Faire face aux risques suicidaires, qui permet aussi de faire tout ce travail de déconstruction des représentations pour les professionnels, l'ensemble des professionnels, afin de leur permettre d'être dans une posture un peu moins inconfortable et dans une posture qui permet justement cette rencontre avec une personne en crise suicidaire.
Un reportage réalisé par Laurence au colloque du GRAP, le groupe d'accueil d'action psychiatrique, c'était le 2 et 3 mai dernier. Vous pouvez retrouver ce reportage sur notre site django.fm et je vous rappelle encore le numéro d'aide face au suicide, le 143, la main tendue, le 147, Pro Juventute, écoute et conseils pour les jeunes et aussi sur le site stopsuicide.ch dans la rubrique besoin d'aide. Merci Laurence.
Merci à toi Claudia.